gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Bonsoir à toutes et tous, vous êtes bien à la causerie 22-23. Ah, alors ça, c'était pour pas une surprise, mais on va démarrer l'émission très vite parce qu'on a une correspondante à Paris pour nous faire un petit point sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si elle nous entend. Allô ?
Allô, est-ce que tu nous entends à Paris ? Allô ?
Ah, ça, c'est les joies du direct. Allô ?
Allô ? Allô ? Est-ce que tu nous entends à Paris ?
Ouais, je vous entends.
Ouais, ok. Alors, je pense que le son ne sera pas forcément top. On va essayer de se faire 5-10 minutes de retour autour de ce qui s'est passé, effectivement, comme tu le disais, sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, sur tout ce qu'il y a eu. Et ben, on va te laisser la parole, si tu peux faire un peu ton retour.
Ouais, en fait, ça a commencé vers midi. Il y a beaucoup de monde qui se sont réunis sur République, notamment pour faire d'abord une chaîne humaine pour certains d'entre eux, une chaîne humaine qui s'est rapidement défaite parce que faire une chaîne humaine pendant des heures, c'est pas très rigolo. Donc il y a pas mal de gens, de curieux, un peu tout le monde qui s'est retrouvé place de la République, tout type de gens, de catégories sociales. Il y en avait aussi qui étaient là en hommage des attentats. Il y avait un mélange comme ça humain. Il y en avait certains qui arrivaient du convoi de Notre-Dame-des-Landes. Il y avait aussi des gens d'Alternativa, de la coalition 21, d'Attaque, un peu tout le monde. Et vers 16h, 16h30, les forces de l'ordre ont commencé à encercler la place de la République à Paris. Et la place de la République s'est retrouvée super rapidement, mais encerclée par le dispositif sécuritaire était vraiment impressionnant. C'est-à-dire que vous aviez une épaisseur de 3-4 CRS, plus derrière des camions, des petits fourgons blancs qui étaient aussi de gens qui ont peu à peu commencé à resserrer la place de la République, parce que bon, au préalable, il y a eu une espèce de manifestation symbolique où un petit groupe de gens, on a tourné autour de la place comme ça, mais vraiment en bon esprit. Et puis, bon, après, voilà, ça c'est... Ouais, ils ont un peu divisé sur la place les manifestants. Du coup, au bout d'un moment, on s'est retrouvé sur la place de la République, un peu pris comme des sardines dans une boîte, et les forces de l'ordre ont complètement resserré de plus en plus. Et du coup, moi et plusieurs amis, on s'est retrouvé dans une nasse. Apparemment, il y en avait une autre. Et une nasse, c'est quoi? C'est un endroit où tu es complètement encerclé par des forces de l'ordre et tu peux plus du tout sortir. Et ça, dès 16h30, en fait, plus personne pouvait quitter la place de la République. Du coup, on s'est retrouvé comme ça coincé avec des gens de tout type de gens qui étaient aussi bien pris par hasard que des passants qui étaient pris aussi dedans, une mère qui était plus sans son fils, tout le monde s'est retrouvé comme ça. Et à partir de 17h, ils ont commencé mais à nous picorer comme une grappe, hein, quoi, comme des oiseaux sur une grappe, c'est-à-dire toutes les 5 à 10 minutes, il y avait 10 à 15 CRS qui rentraient dans la NAS violemment, qui prenaient deux personnes, alors selon des critères bien spécifiques, hein, parce que nous on ne s'est pas fait prendre, par exemple. Donc ils avaient quand même des critères en tête, alors lesquels on se doute que c'est peut-être ceux de d'habitude, en tout cas c'était assez particulier. Donc ils ont prélevé comme ça, comme des oiseaux sur une grappe. Alors les gens étaient solidaires, il y avait vraiment une bonne ambiance parce que psychologiquement c'était quand même assez dur. Il y avait des slogans, certains comiques même, genre appeler la police, c'est une prise d'otage, alors que c'était les flics qui faisaient la prise d'otage. Mmh. Il y avait des chansons, il y a eu même un peu de sono qui s'est mis en route parce que c'était quand même psychologiquement assez dur d'être entouré. Donc, ça gardait le moral. Il y avait des gens de tous bords qui commençaient à discuter en étant vraiment surpris d'être là et se demandant ce qui se passait. Et ils ont prélevé comme ça sur 3 heures une à deux personnes à chaque fois qu'ils rentraient violemment dans la NAS. J'ai vu, mais de mes yeux vus, c'est peut-être pas la première fois qu'on voit ça, mais des gens tirés par les cheveux, mm-hmm. À quatre dessus, avec des gens moitié étranglés, vraiment un arrachage extrêmement violent. Et il faut dire aussi que tous les gens qui étaient dans la NAS étaient pacifistes. Il y avait même les clowns activistes qui étaient là, qui ont mis une certaine ambiance. C'était vraiment bon enfant, mais les forces de l'ordre, ça a été extrêmement violent, quoi. Donc on a, vers 19h, alors c'est dur de chiffrer, dans cette masse, on se dit on était quoi? On était 200 ou 300. En tout cas, au bout, vers 19h, on se retrouvait peut-être à une cinquantaine. Il y avait encore quelques médias présents. Et ça a continué. Et à un moment donné, ils ont fait deux couloirs. Ils ont fait deux couloirs où, bizarrement, certains ont pu sortir. Moi, par exemple, j'ai pu sortir. L'ami qui était avec moi, notre copain aussi, ont pu sortir. On a juste été palpés, les sacs fouillés, et on a pu partir librement. Et on est parti librement. Je ne vous cacherai pas qu'on est allé se boire une bière parce que ça a été extrêmement psychologiquement lourd, quoi, fatigant, parce qu'on était debout. Hein, et puis vraiment serré comme des sardines. Et donc, je ne sais pas, peut-être une heure après, on est allé faire un tour sur la place pour voir, et on voyait qu'il restait des forces de l'ordre, que apparemment tout le monde a dû être fini d'embarquer. Alors il y avait, pendant qu'on était dans la NAS, il y a quelqu'un, c'était vraiment bon enfant, c'était vraiment pacifiste, il y a même quelqu'un qui est monté à un arbre très très haut, c'était vraiment le côté... côté magenta, côté de la place de la République, il y a même quelqu'un qui est monté très haut dans un arbre, accroché un drapeau de la paix. Ça chantait. Il y avait vraiment une ambiance qui était vraiment disproportionnée par rapport à la réaction des forces de l'ordre. Et puis, quand on est revenu, on a vu que la place était vide de gens. Il restait encore des forces de l'ordre qui étaient en train, plus ou moins, alors on ne sait pas, de partir, de se rhabiller, fin de l'exercice. Alors il y a un chiffre officiel là, qui est en train de traîner, comme quoi, mais c'est un chiffre qui date déjà en termes de temps, donc il y a eu sans doute d'autres arrestations depuis. Mais alors, chiffre officiel de la préfecture, il y a à peu près une à deux heures, c'est 208 arrestations et 174 gardes à vue. Alors, je sais que du côté de Paris, il y a une legal team qui s'est mise en place et il y a beaucoup d'appels apparemment où il y a des mères qui cherchent leur enfant, leur grand-enfant, adolescent, parce qu'elles étaient ensemble, elles ont été séparées à ce moment-là, puisque vraiment, c'est vraiment un cercle qui s'est refermé. On a vu un papy se faire mais casser les jambes à coups de matraque. C'est assez choquant, hein, une personne un petit peu âgée qui se fait... Parce que les gens qui ne pouvaient pas courir et s'échapper, de toute façon, à un moment donné, c'était même impossible de s'échapper puisque les flics nous entouraient complètement. Mais en tout cas, bon, hein, t'as une grosse charge de CRS, tu cours, hein, que tu sois courageux ou pas, tu cours. Hein. Et donc, le papy s'est mis lui aussi à courir. Ils ont pété les jambes avec la matraque. J'ai vu une fille se faire gazer, mais à un mètre, par du gaz lacrymo, parce que avant qu'il y ait l'encerclement complet, ils ont d'abord commencé par mettre de la lacrymo sur toute la place. Toute la place s'est retrouvée dans un espèce de nuage. Bon, déjà, voilà, ça a pas mal, dégagé de monde, mais comme la nasse s'est resserrée, de toute façon, on n'a pas pu s'échapper du tout, quoi. Donc les passants, tout le monde qui était là, traité de la même façon. Voilà, arrestation, ouais. Garde à vue. Okay. Bon, on n'en sait pas plus là sur Paris. On ne sait pas trop non plus dans quel commissariat. Enfin, il y a une espèce d'omerta du côté des forces de l'ordre. On ne sait pas qui a été franchement arrêté, qui est où. Silence complet. Et puis là, il y a des. Enfin, voilà, on n'en sait pas plus. On attend un petit peu des nouvelles des copains qui nous appellent. On a vu certains amis se faire arrêter. On n'a pas de nouvelles depuis. Voilà, gros. On en saura sans doute plus. Mais vous avez peut-être vu des images dans les médias. Qu'est-ce qui vous a alerté de ça? Enfin, alors, qu'est-ce qui s'est dit en fait?
Alors, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, j'espère. Donc dans les médias, ce qui s'est dit, c'est que c'était donc des groupes isolés de personnes extrêmement violentes qui ont commencé par détruire le sublime zone d'hommage aux victimes des attentats et qui donc ont été réprimées par les forces de l'ordre parce qu'elles détruisaient cet hôtel symbolique. Et nous, ça nous paraissait complètement surréaliste comme explication. Donc, d'après ce que tu dis, c'était pas du tout ça et on n'en doutait pas. Donc, c'était pour
non,
ça.
Non, non, que... on a même. Non seulement c'était pas ça, mais c'est pire que ça, c'est qu'en fait, quand les forces de l'ordre ont chargé, elles ont totalement piétiné l'hôtel qui était sur la place de la République. Il y avait plein de chrysanthèmes qui venaient d'arriver, qui étaient toutes neuves et tout. Ils ont marché dessus comme des porcs, très franchement, quoi. Alors, c'est assez rigolo qu'ils prétendent qu'on se soit servi de l'hôtel symbolique à balancer sur les forces de l'ordre. C'est quand même les forces de l'ordre qui ont piétiné sans aucun égard sur les hommages aux victimes des attentats. Ils nous ont en plus poussé de la... parce qu'on s'était tous réfugiés un peu autour de la statue au début, et puis comme ils sont passés comme un peigne, tu vois, où ils ramassent tous les gens au fur et à mesure. Quand ils sont arrivés sur la statue, ils ont marché sur tous les hommages. Il y avait tout un parterre de chrysanthèmes sur la droite, mais ils les ont écrasés, mais ils en sont... Et puis la violence, elle était vraiment pas du côté des manifestants. Je te dis, il y a des mamies, il y a des papis qui étaient là, il y avait beaucoup de médias étrangers. Je pense qu'il y aura peut-être un son de cloche différent du côté des médias étrangers qui étaient témoins. Après, on ne sait pas. C'est assez drôle parce que les manifestants étaient particulièrement pacifistes, quoi.
Ce qu'on peut déjà te dire, c'est que au niveau des médias étrangers, notamment la télévision anglaise, la BBC, avait des reporters sur place et qu'elle confirme la version qui est de dire que ce n'est pas les manifestants qui ont détruit l'hôtel, mais bien la police. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que c'est quelque chose.
Heureusement qu'il y avait des manifestants, parce qu'on quand on les a vus, on leur a dit il faut que vous le disiez dans votre pays, quoi.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu as pu le dire ici. En tout cas, je trouve que justement, il faut commencer directement à avoir nos médias à nous et effectivement donner
des relais.
Des relais. On te remercie, on ne va pas te retenir plus longtemps.
Merci à vous. Et puis, tu as raison. Les médias libres comme Radio Canut ont intérêt aussi à faire passer ce mot-là parce que. Effectivement, c'est pas dans les autres médias qu'on aura la vérité. Donc, merci à vous.
C'est ça.
Et puis bon courage pour la suite.
Bon merci, bon courage à toi et à tous.
Ouais, on vous embrasse ici, en tout cas depuis Paris. Bon courage.
Et merci. Les baisers remontent de Lyon aussi. Salut.
Bonne continuation, bon courage. Ciao.
Ok, salut. Salut, ciao. Merci.
Voilà. Et donc, bah, c'était directement après les événements de cet après-midi sur la place de la République à Paris. Et on tenait à voir ce témoignage pour ouvrir cette causerie un peu spéciale, vu qu'on avait décidé de la consacrer à l'état d'urgence et que, comment dire, on a eu une belle démonstration de ce qu'apportait, de ce qu'amenait l'état d'urgence cet après-midi sur la place de la République. Alors, pour les Lyonnais, ça doit vous rappeler quelque chose.
Quand j'écoutais ce qu'elle disait, ça rappelait effectivement la prison à ciel ouvert qu'il y a eu à Bellecour, avec les mêmes techniques, avec...
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on a en tout cas une force armée qui est très bien entraînée, on n'en doutait pas forcément, sinon, souvenez-vous, par le passé, on avait...
On avait reçu le collectif du 21 octobre dans la causerie qui nous avait expliqué justement comment la prison Bellecour allait être finalement quelque chose qui allait servir plus tard, et on le voit aujourd'hui.
Ouais.
Parce que c'est exactement la même technique. Et en dehors de ça, on voit aussi le mensonge médiatique, qui est de dire que pour discréditer les personnes qui étaient présentes sur la place, qu'en fait ils auraient blasphémé vis-à-vis des victimes des attentats. Et on voit bien que c'est une utilisation honteuse de l'image et de l'émotion, et que voilà, c'est tout ça qui est dans l'air du temps. Donc on va démarrer la causerie normalement. Donc on va quand même rappeler que Jean-Yves est là, salut.
C'est ça, bonsoir.
Que Clara assure super bien la technique.
Bonsoir.
Merci pour le téléphone, c'était nickel.
Et Fab.
Bah voilà.
Vous aurez reconnu sûrement.
S'il y a des chances.
C'est ça.
Si y a des gens écoutent régulièrement, je
c'est
crois.
C'est vrai. Alors on va quand même vite fait faire les deux, trois infos sur la causerie, vite fait quand même, pour vous rappeler que si vous voulez nous écrire, faire des retours à la causerie, ça se passe toujours par mail, c'est lacauseriecanu@gmail.com. Il y a le blog où vous trouvez tout ce qui est podcast et aussi des infos complémentaires, c'est sur blog au pluriel, donc blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà, il y a aussi une page sur le réseau social, et mais par contre on vous le rappelle, c'est par le blog qu'il faut passer et par les mails, parce que voilà, c'est mieux.
Et on va quand même vite fait, avant de continuer dans cette causerie autour de l'état d'urgence, on va quand même saluer les causeuses qui ne sont pas là. Emma, Jonathan et Nadège, on vous fait des gros bisous.
Et oui. Ça nous permet d'enchaîner. Je vais juste poser quelque chose pendant deux minutes et ensuite on va faire une coupure musicale, qu'on ait le temps de boire un coup. Donc juste rappeler qu'en fait le climat actuel, il est à l'issue d'un événement tragique qui a eu lieu le 13 novembre, un attentat à Paris, plusieurs attentats qui ont fait 130 morts et 351 blessés, dont 95 toujours en état grave à l'heure actuelle, et que suite à ces attentats fasciste et à base pseudo-religieuse, le chef du gouvernement a décidé de placer le pays en état d'urgence. Et en fait, on s'est rendu compte que autant on entendait ce mot à tour de bras en ce moment, autant on avait un peu du mal à définir ce qu'était l'état d'urgence. Donc ce qu'on vous propose dans la suite de la causerie, c'est d'essayer de vous poser un petit peu ce qu'est l'état d'urgence, ce que ça entraîne et la folie qui l'entoure. Voilà, un peu de musique avant.
Allez.
Et voilà, vous venez d'entendre Ulysse de Dead Can Dance. Voilà, c'était un morceau magnifique. Ce soir, on vous a mis des musiques un petit peu douces parce que le sujet est un petit peu lourd. Ça compensera. Causerie spéciale état d'urgence. Alors moi, je vais commencer déjà par rappeler ce qu'est l'état d'urgence. Donc, on va le faire à deux avec Jean-Yves. On va lire un petit peu l'un après l'autre parce que c'est vraiment là, on va faire du factuel qu'est l'état d'urgence. Donc, l'état d'urgence, c'est une situation spéciale, une forme d'état d'exception qui restreint les libertés. Il confère aux autorités civiles, dans l'aire géographique à laquelle il s'applique, des pouvoirs de police exceptionnels portant sur la réglementation de la circulation et du séjour des personnes, sur la fermeture des lieux ouverts et ouvert au public, pardon, et sur la réquisition des armes.
Ce régime exceptionnel, organisé par la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955, coexiste avec d'autres modalités de gestion de crise. L'état de siège inscrit à l'article 36 de la Constitution, les pouvoirs exceptionnels inscrits à l'article 16 et enfin la théorie des circonstances exceptionnelles.
Historiquement, l'état d'urgence a été créé et inventé pour faire face aux événements liés à la guerre d'Algérie. Seulement, la loi est toujours en vigueur et elle est actuellement appliquée sur l'ensemble du territoire depuis le 13 novembre 2015.
C'est ça. D'après l'article 1er de la loi, l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des territoires d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultat d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Tu aurais dû boire pendant la musique.
Pardon.
Du coup, les préfets, ils peuvent interdire sous forme de couvre-feu la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux précis et à des heures fixées par arrêté. Ils peuvent aussi instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. Ils peuvent interdire de séjour toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
Et le ministère de l'Intérieur peut aussi assigner à résidence, on y reviendra aussi un petit peu plus tard, toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public.
Pour être clair, une simple signature du ministre suffit pour ça. Le ministre de l'Intérieur ou les préfets peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, des débits de boissons et lieux de réunion, et les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre, ainsi qu'ordonner la remise des armes de catégorie B et C.
Et par disposition expresse, alors c'est très...
c'est joli, hein, comme
c'est, oui, c'est de l'appel prose. Par disposition expresse, le ministre de l'Intérieur et les préfets peuvent ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit, prendre toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et de la radio, et les perquisitions peuvent être faites sans le contrôle d'un juge.
La juridiction militaire, via un décret d'accompagnement, peut se saisir de crimes ainsi que des délits qui leur sont connexes. Ce qui veut dire qu'on peut déployer l'armée sur le territoire, pour faire simple.
Et le refus de se soumettre, en fait, peut être passible d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à 2 mois et une amende de 3 700 euros. Ou les deux, en fait. Hein. Voilà.
Voilà, en gros, ce qu'est l'état d'urgence. Alors, pour faire vite et revenir un tout petit peu sur ce qu'on vient de dire, on comprend qu'en fait, ça veut dire que les ministères, le ministère de l'Intérieur et le président de la République se retrouvent avec l'ensemble des pouvoirs dans leurs mains, sans contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne passe plus du tout par les juges, hein, c'est-à-dire que rien n'est contestable dans un état d'urgence, voilà, pour faire simple, on va la faire courte, c'est à peu près ça. Et donc, pour ce qui concerne Radio Canut, par exemple, on pourrait tout à fait décider demain que si cette émission entrave l'ordre public,
l'État, ou le préfet, hein.
Voilà, le préfet ou les, voilà, le préfet qui est, oui, pas nous, mais pardon, l'État, le préfet, c'est-à-dire le représentant de ceux qui sont censés nous protéger, d'après ce qu'ils disent, en fait, ils pourraient décider que si, par exemple, cette émission venait à contrevenir à l'ordre public pour une raison X, Y ou Z, on pourrait couper l'antenne de Radio Canut sur décision simple du préfet ou du ministre, parce que je pense que là il ferait ça avec le ministre, ça ferait mieux, mais sans qu'il y ait de recours possible judiciaire pour contrer une décision qui n'est qu'une décision administrative. C'est-à-dire qu'en fait on enlève toute la juridictionnelle, tout ce qui est judiciaire, pardon, et donc du coup on se retrouve dans un état où il n'y a plus de contrôle du tout de ce que fait l'exécutif, c'est-à-dire qu'on n'est plus en démocratie, parce que je vous rappelle que dans la Constitution française est établie la notion de démocratie par la séparation de l'exécutif et du judiciaire.
C'est ça.
Et lorsque vous êtes en état d'urgence, eh bien, il n'y a plus de judiciaire. Donc, ça ne s'appelle plus la démocratie, même d'un point de vue de la Constitution française. Ça pose un léger problème. Il faut savoir que l'état d'urgence, au départ, c'était prévu pour 12 jours. Dans la loi, dans la loi d'origine, vous ne pouviez pas dépasser 12 jours d'état d'urgence. Eh bien, François Hollande a fait voter une loi à l'Assemblée nationale pour permettre que cet état d'urgence soit étendu pendant...
Trois mois,
c'est ça. C'est trois mois de suspension de démocratie. Bah,
trois mois, 12 jours. Il y a quoi? Il y a deux mois et demi de différence,
c'est
quoi.
C'est pas grave.
C'est du pareil.
Alors,
au même.
On va être clair, hein, nous, on est déjà assez critiques à la causerie sur ce qu'on appelle démocratie républicaine. Hein, mais là, on est carrément passé en dessous de ce niveau-là de liberté. Hein, c'est-à-dire clairement. Alors, on va peut-être lister un petit peu les députés qui ont voté contre. Vous allez voir, ça va être très,
oui,
très long.
Oui, c'est ça. Il y en a. Hein.
Il y en a plein.
Oh, 6. Donc, on peut vous les citer quand même, parce que c'est rare. Hein. Là, quand c'est,
le courage en politique est rare, pour une fois qu'il y en a un peu.
Alors, il y avait Pouria Amichai, Barbara Romagnan, Gérard Sebaoun pour le PS, plus une abstention de Fanélie Carré-Comte.
Voilà.
Donc, ça fait 3 députés plus une abstention sur 287 de leur groupe PS et apparenté. Voilà. Ensuite, nous avions aussi Isabelle Attard, Sergio Cornondo.
Coronado, pardon, je l'ai mal écrit.
Ah, pardon.
Oui, c'est moi qui ai mal écrit.
Et Noël Mamère pour Europe Écologie Les Verts, donc soit 3 députés sur 18 de leur groupe. Donc, comme je vous le disais, ça fait donc effectivement 6 députés sur 577, tout groupe confondu, ont voté donc contre l'état d'urgence.
Ça veut donc dire qu'y compris les gens qui sont censés représenter l'extrême gauche à l'Assemblée nationale, c'est, on dit souvent il y a l'extrême gauche, ces gens qui veulent à tout prix soutenir les travailleurs et les travailleuses, eux ils ont voté le fait que cet état d'urgence soit prolongé. Je vous rappelle que l'état d'urgence, ça entraîne quelque chose de très direct, c'est l'interdiction de manifester. On en a eu un bel exemple au début de l'émission. C'est un peu étonnant parce que l'interdiction de manifester, elle touche pas tout et pas tout le temps. Alors on a dit qu'on le faisait après, mais du coup on a chamboulé l'émission.
Effectivement. Ouais. Et en fait c'est toutes les manifs, enfin d'opinion en fait, d'opinion sur place publique est interdite donc jusqu'au 1er décembre 2015, inclus pour l'instant. Alors, le pour l'instant, c'est pas de moi, ni de Fab, ni même de Clara. Le pour l'instant vient de l'État.
Oui, de Monsieur Cazeneuve.
De Monsieur Cazeneuve. Et quand un ministre vous glisse pour l'instant, c'est pas par hasard. Sinon, il l'aurait pas mis, il se serait pas enquiquillé à foutre des mots en fin de phrase.
C'est que ça va durer.
C'est ça.
Alors, on peut rappeler aussi qu'en plus de l'interdiction de manifester, on a la possibilité de faire des perquisitions, de faire des gardes à vue, et puis de soi-disant avoir des résultats meilleurs que dans le non-état d'urgence.
C'est ça.
Donc on va peut-être donner quelques chiffres quand même, qui sont assez flippants quand même.
Ah bah oui, alors là on a arrêté nos chiffres au samedi
18h.
Bon, je pense qu'aujourd'hui ça va encore gonfler, hein, bien évidemment. Donc samedi on était à 1800 perquisitions. En France, au moins, depuis le déclenchement de l'état d'urgence, et dont 600 ces 3 derniers jours.
C'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi.
C'est ça. Donc, alors, sur tout ça, ça a donné 200 gardes à vue et 400 assignations à résidence. Donc, assignation à résidence, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est tu restes chez toi, tu as des heures où tu dois être chez toi, tu dois pointer
3 fois au commissariat.
Donc là aussi, hein, c'est tout ce qu'on ne dit pas, c'est toutes les conséquences que ça a, parce que...
Bah, tu perds ton boulot, hein.
Mais c'est ça,
hein.
C'est-à-dire que là, il y a des gens, on en parlera peut-être encore après, mais il y a des gens qui sont là-dedans et...
Perds ta liberté, tu perds ton boulot.
C'est
si,
ça.
Si par exemple, tu es un père qui est divorcé ou une mère qui est divorcée et qui doit, récupérer son enfant ou le restituer à l'autre personne, ça chamboule tout. On va aussi rappeler quand même que tu n'as pas accès au téléphone ou à Internet en théorie, c'est-à-dire qu'on te coupe tout. Tu es en prison chez toi, en fait.
C'est
clairement, l'assignation résidence, c'est une prison chez soi.
C'est ça.
Et donc, on en est à 400 personnes à samedi 18h qui sont aujourd'hui en prison chez elles sur une simple signature d'un ministre qui décide que ces gens-là sont dangereux. Voilà, c'est exactement ça.
C'est ça. Et donc, sur toutes ces 1800 perquisitions, ils ont retrouvé 293 armes.
Alors ça, c'est ce qu'ils annoncent.
C'est ça. Dont plus de 80% d'armes dites de chasse, en fait. Donc, on est quand même loin de la sulfateuse que les fachos ont utilisée au Bataclan ou ailleurs. Hein. Mais donc, voilà. Et ou alors, ce sont aussi des armes de collection non déclarées.
Vous savez, par exemple, l'héritage de tonton machin, on garde le fusil et on a oublié de dire à la préfecture qu'on avait gardé le fusil qui date de l'ère napoléonienne. Hop, c'est une arme, ça fait un de plus.
C'est ça. donc quand même, alors après, on a retrouvé aussi, selon plusieurs observatoires en fait, de l'état d'urgence, que ça se montre quand même, il y a des gens qui se motivent pour faire des...
Notamment grâce à la Ligue des droits de l'homme, qui fait un gros boulot.
Et selon ces observatoires, en fait, plus de 60% des perquises, je pense même chouïa plus, selon
certains chiffres. Oui, d'ailleurs, j'ai lu le chiffre tout à l'heure, hein, ils ont rectifié, ils sont à plus de 70% aujourd'hui.
Parce voilà.
Il faut le temps, en fait, d'interroger toutes les personnes qui ont été perquisitionnées, ça prend du temps, en fait.
Donc plus de 70% des perquisitions ne concernent absolument pas les milieux islamistes...
Ou terroristes, comme ils aiment bien dire.
C'est ça. Mais les milieux militants, au sens large, et on en a eu encore une fois aujourd'hui une démonstration par les gens qui sont visés, c'est les écologistes, les anarchistes et les militantes dites de gauche, dites radicales.
Donc ultra total gauche, comme dirait la Parisienne libérée.
C'est ça.
Donc voilà. Voilà, en gros, on a posé un petit peu l'état d'urgence. On va refaire une petite coupure musicale et ensuite on va revenir un petit peu pour les conséquences que ça peut avoir et ce qu'on observe en ce moment. Voilà.
Vous êtes de retour dans la causerie et on vient d'écouter Mary Boyne avec le titre Voy Voy Mou.
Et quelle langue c'était donc ?
C'était du Sami.
Oh, c'est joli. Et c'est d'où le Sami ?
C'est en Laponie.
Oh, chouette. C'était
très joli.
Ouais. Merci pour ce très beau morceau. On continue donc cette causerie sur Radio Cadu au 102.2 ou sur radiocadu.org. On continue autour de l'état d'urgence parce qu'on a décidé ce soir de vous parler, de faire une causerie entièrement dédiée à l'état d'urgence pour essayer d'un peu comprendre et voir ce qui se passe. Alors, on vous a parlé avant des interdictions de manifester et puis du droit d'aller faire des perquisitions sans contrôle d'un juge, hein, c'est-à-dire qu'on rentre comme on veut, voilà, comme à la maison. Enfin, avec un bélier quand même, mais comme à la maison quand même. On va vous donner quand même quelques exemples de perquisitions un peu surréalistes qu'il y a eu ces derniers temps. Donc on a d'abord l'exemple de deux maraîchers bio qui ont été perquisitionnés et mis en assignation de résidence dans le Périgord, en Dordogne donc. Voilà, alors les deux sont syndiqués à la CNT, a priori.
Alors je sais pas si c'est les deux, c'est peut-être...
Voilà. Et donc, Jean-Yves, qu'est-ce qu'ils ont...
Ah ben, les flics ont juste demandé, c'est quoi la CNT ? Bon, d'accord.
Donc on sent qu'ils maîtrisaient leur sujet quand ils sont rentrés. Quoi.
Par contre, ils ont, je crois que ce qu'ils leur est reproché, c'est la distribution de tracts et l'organisation de réunions.
Voilà.
Je crois autour de la COP21 ou alors de Notre-Dame-des-Landes.
En 2012. Et c'est nous sommes en 2015. Tout va bien.
C'est ça.
Quoi. Donc il y a eu cet exemple-là.
Il y en a un autre. Il y a un kebab parisien dans le 20e qui a été dénoncé parce qu'il. Oui, la dénonciation, ça fonctionne. Hein.
C'est très français. Ça.
Oui, parce qu'il aurait eu une salle de prière salafiste, alors qu'en fait, il s'agissait simplement d'un lieu œcuménique, comme toute entreprise privée peut mettre en place, et que l'employeur laissait à ses employés croyants. Voilà. Et donc, ils sont rentrés, ils ont défoncé le truc, et ils sont repartis.
Voilà.
C'est ça, pendant le service. C'est-à-dire que tu vois les images de la vidéo surveillance du resto, t'as 30 flics qui rentrent mais armés jusqu'aux dents. Les gens ils sont sur leur chaise, ils savent plus du tout ce qui se passe et en fait il se passe rien quoi.
Et bien sûr pas d'excuses, pas
bien
de
que
on
non,
s'est trompé,
pas
rien, ils repartent hein,
pas c'est déconner
tout. Ensuite, on a deux cuisiniers du restaurant solidaire et militant La Conjuration des Fourneaux qui se trouve à Rouen. Donc, je vous rappelle que c'est un restaurant qui permet de donner de la nourriture aux gens qui en ont besoin. Sauf qu'il y a une sorte de caisse différentielle. Mmh. Si vous avez les moyens, vous payez. Si vous n'avez pas les moyens, c'est gratuit. Et voilà. Et donc, eux, ils ont été assignés à résidence. Alors, le motif invoqué, c'est participation probable à un contre-sommet envers la COP21. Voilà, alors il y a quand même un degré, c'est qu'ils savent même pas si les mecs étaient vraiment dans l'organisation de ce contre-sommet, c'est probablement,
peut-être
on sait pas. Donc voilà. Alors, on va bien sûr ajouter, c'est un peu ce que notre envoyée spéciale parisienne disait, les contrôles aux faciès incessants en ce moment, la nervosité des forces de l'ordre, voilà, le manque de respect lors de ces contrôles, tutoiement, plaquage au sol, violence.
En même temps, pour certains ou certaines, n'est pas si différent que d'habitude.
Sauf que du coup, je vous rappelle qu'en état d'urgence, ils ne peuvent rien faire, parce que du coup, on ne peut pas porter plainte, parce que c'est l'état d'urgence. Donc, le judiciaire est mis de côté.
Oui,
c'est beau. Voilà, voilà. Et puis, on va juste quand même rappeler qu'aussi la France a écrit à la Commission européenne des droits de l'homme pour lui signaler qu'elle allait sûrement pas les respecter tous, et qu'elle s'en excusait d'avance. C'est merveilleux. Je trouve que quand une démocratie comme ça, qui se veut le fer de lance des droits de l'homme dans le monde, écrit pour dire finalement je vais pas les suivre, c'est quand même pas mal. Je trouve qu'il y a un côté assez flippant. Donc voilà, ça c'était pour les exemples qu'on avait, parce que ça nous semblait quand même parlant. Je rappellerai aussi la petite fille qui a été blessée par erreur parce qu'ils se sont trompés d'appartement. Et voilà, tout ça, c'est quand même des choses qui arrivent et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas sain du tout, parce qu'on voit qu'on est dans un drôle d'état. Et nous, ce qui nous a intéressé à la causerie, c'était de se dire, mais comment les gens, globalement, la majorité des gens, parce qu'il suffit de voir les enquêtes d'opinion ou de lire les réseaux sociaux, ou voilà, finalement, acceptent cet état qui est finalement une négation de la démocratie pendant 3 mois. Minimum, parce que me demande si dans 3 mois ils ne referont pas voter une loi d'état d'urgence pour recommencer pendant 3 mois ou voire plus. Et en fait, comment en fait on arrive à cette notion là et on s'est rappelé que dans la causerie on vous avait parlé d'un livre et d'un film
de Naomi Klein
qui s'appelle
La stratégie du choc. Alors, encore une fois, hein, comme on l'avait déjà rappelé quand on avait présenté le livre et le film, il ne s'agit absolument pas de complotisme, absolument pas, mais clairement pas. La stratégie du choc, c'est comment un État, quel qu'il soit, va utiliser une période de choc suite à... Alors, ça peut être... comme là aujourd'hui en France,
un attentat,
mais ça peut être aux États-Unis, c'était aussi avec les catastrophes naturelles, et partout ailleurs. C'est voilà, utiliser ce moment où les gens sont dans un entre-deux, entre l'émotion, la réflexion, c'est un petit peu éloigné.
Le moment de sidération.
C'est ça. Et l'État, là, en profite pour passer des choses. Et ce qui, effectivement, est démontré à plein d'endroits à travers le monde, c'est que ce truc-là fonctionne vraiment parce que les gens restent. Ils se disent que oui, s'ils l'ont fait, c'est que ça doit être pour nous.
Voilà.
Ben en fait, quand même, les exemples qu'on a pu vous citer, ça démontre quand même pas mal le contraire.
Ouais, et puis on voit qu'on est là, on a clairement une interdiction de manifester au moment où on va réformer le code du travail, c'est-à-dire que en gros. Réformer, ça veut dire dépecer en réalité. Hein. Ils vont exploser le code du travail et enlever des droits aux travailleurs qui n'étaient déjà pas très épais, hein, les droits. Donc voilà, ils vont exploser ça. Donc il n'y aura pas le droit de manifester dans cette période-là. Ils viennent d'annoncer quand même qu'ils accéléraient la commission de réflexion qui devait prendre un an et qui bizarrement devrait rendre ses premières conclusions en février.
C'est ça.
C'est marrant, on n'a pas le droit de manifester jusqu'en février. A priori, même s'ils disent que c'est que jusqu'au 1er décembre, mais comme disait Cazeneuve, pour l'instant.
C'est ça.
On va rappeler quand même qu'ils gardent la notion du pain et des jeux, parce que...
Oui, rassurons-nous.
Le sport n'est pas interdit.
Le foot n'est pas interdit, abreuvez-vous des jeux.
Et c'est exactement ce que Naomi Klein décrit, c'est-à-dire qu'elle explique qu'il y a une partie, en fait, de ce qu'elle appelle l'entertainment idiot qui reste vrai, c'est-à-dire le sport... elle prenait l'exemple américain du Super Bowl qui n'est pas annulé alors qu'il y a le 11 septembre et qu'en fait on n'annule pas les matchs qui mènent au Super Bowl. Alors je suis nul en baseball donc me demandez pas.
Je crois que c'est pas du baseball quand même.
Non, c'est du football américain. je vais y arriver.
C'est pas grave.
Non mais voilà, mais le truc, l'événement sportif ouf là qui est aux États-Unis qui est suivi par la moitié des Américains, et en fait elle explique d'ailleurs très bien dans son livre que tout est annulé après le 11 septembre sauf les matchs qui permettent de faire le Super Bowl, enfin qui permettent de gagner des points. Donc on voit que c'est un peu pareil en France. C'est-à-dire qu'on annule des concerts, notamment les concerts de musique métal, punk, mais on n'annule pas Laurent Gérard ou
Michel Sardou, Johnny Hallyday.
Ou Johnny Hallyday. Et on voit qu'il y a, même là, il y a une sélection, c'est-à-dire qu'on enlève que ce qui peut potentiellement être fédérateur d'une autre vision que celle qui est portée là, dans l'état d'urgence, où on vous demande d'être contrit, d'être triste et surtout de mettre des drapeaux à vos fenêtres et c'est tout.
C'est ça.
Et puis de fermer votre gueule, parce que c'est un peu ce qu'on vous dit là. Donc. Enfin, le « on » étant l'État. Hein. C'est impressionnant parce qu'on voit vraiment une application de cette stratégie du choc que décrit très bien Naomi Klein au niveau de l'État français, c'est-à-dire que, enfin, au niveau de la France. Et on voit qu'il y a quand même une notion qui reste vraie, quel que soit l'État en place, c'est la capacité à rebondir sur l'action menée, y compris par ce qu'ils désignent comme des ennemis. Et c'est ça qui est important. Alors moi, je n'ai aucun doute sur le fait que les espèces de starbés qui sont allés tirer à la Kalachnikov sur des pauvres parisiens qui n'avaient rien demandé, sont de vrais cinglés et que ce sont vraiment nos ennemis. Je n'ai aucun doute là-dessus. Par contre, c'est comment on réagit face à ça. Alors, Naomi Klein le dit, et moi je vais le dire aussi au nom de la causerie, il nous semblait quand même vachement plus logique face à des fachos de réagir par plus de démocratie et plus de liberté. C'est-à-dire que théoriquement, quand un État fasciste ou même un groupuscule fasciste vous canarde pour vous mettre dans un état de terreur, la réponse qu'on est censé lui apporter, c'est pas de lui répondre en disant « je vais faire comme tu fais chez toi ».
En fait, t'as raison.
Et c'est pourtant ce qu'on est en train de faire.
C'est ça.
C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on est en train de mettre en place, on est à fascisme moins le quart, comme j'ai lu un très bon article comme ça, où en fait, on accepte de perdre des libertés, on accepte de perdre des droits, on accepte de perdre des notions qui sont quand même fondamentales pour les Français, comme le droit, je dis pour les Français parce que ça se passe en France, c'est dans d'autres États, ça pourrait se passer pareil, mais par exemple, c'est une sociologue qui disait, il y a une culture en France qui est la culture du coup à boire après le travail, c'est-à-dire que vous savez, on sort, c'est vers entre 17 et 20 heures, et puis on va avec les collègues, on va boire un coup avant de rentrer à la maison. Et elle dit, depuis les attentats, et du fait en fait de ce climat assez terrible. C'est pas que les gens qu'elle a interrogé elle dans son dans le cadre de son papier avaient peur de nouveaux attentats. Ils avaient peur des policiers. C'est-à-dire qu'ils disaient mais à chaque fois qu'on sort, il y a des flics de partout. C'est surtout des Parisiens qui étaient interrogés. Si on est en état d'ébriété, tout de suite il y a un policier qui nous tombe dessus. On peut pas se déplacer comme on veut parce que vous voyez. Et c'est étrange. C'est-à-dire que on crée un climat qui est celui dont rêvaient les gens qui ont commis cet acte odieux, c'est-à-dire ces actes odieux. Et ce n'est pas une réponse cohérente. Enfin, je ne sais pas, c'est dit comme ça, ça me paraît bizarre, non?
Non, mais je crois que...
Non, mais voilà.
Oh là là, mes mots s'embrouillent, pardon. Tu décris très bien le truc. Et,
voilà. Et moi, nous, on pensait vraiment que plus de démocratie était quand même la réponse. Enfin, plus de liberté, de démocratie, de joie de vivre était une réponse vachement plus positive que de faire exactement. Voilà. Et parce que c'est le but de ces fous, c'est de diviser les gens, c'est de créer en fait un climat de malsain, c'est de créer un climat où on peut trier les bons et les mauvais, parce qu'on n'a pas pu le dire là, mais aujourd'hui c'est les réfugiés qui en prennent plein les dents.
Ça c'est sûr. Ouais.
Parce qu'il y en a un qui sûrement stratégiquement en plus, faut pas se mentir, est passé avec une colonne de réfugiés pour dire voilà, au moins vous voyez, on est venu avec les réfugiés, c'est comme ça qu'on arrive chez vous pour vous tuer. C'est sûrement stratégique, faut pas prendre les gens pour des cons.
Ils sont pas cons, hein.
Parce qu'ils pouvaient prendre l'avion ou n'importe quel autre moyen. Et ben ça sert à dire les réfugiés, il faut plus en avoir, il faut fermer les frontières, il faut, et c'est terrible parce que ça sert à quoi? Ça sert à créer la division, la peur, la crainte d'autres êtres humains qui fuient eux-mêmes les flinguer de la tête, qui sont venus flinguer les gens ici. Donc c'est là le problème, c'est que on est en train de leur répondre exactement comme ils l'attendaient, c'est-à-dire sans prendre plus de pincettes que ça. Donc, et c'est quand même dramatique. Voilà, non mais je le dis, c'est parce que on voit aujourd'hui comment il s'appelle l'autre là, Manuel Valls, qui dit à l'Europe qu'il ne veut plus, accueillir de réfugiés. Mais au nom de quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens qui sont sur la route en plein hiver là sous la neige à essayer de venir grappiller un petit coin pour survivre le temps que la guerre s'arrête chez eux? Ils ont fait quoi en fait? Bah non, mais on dit ah oui, mais il y en a un qui est passé par là, un quoi. Non mais attendez, ça va, c'est juste stratégique, faut arrêter les conneries. C'était volontaire, c'est pour créer ce climat-là. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, je crois, en fait.
C'est ça. Ben on passe à de la musique. Allons-y.
Accident that happened, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel.
On va tout vous avouer dans la causerie sur Radio Canu, son dodo, radiocanu.org. Ce titre, c'est Nadège, la causeuse, qui hier soir, parce que oui, on était hier soir ensemble, a dit « Je voudrais bien qu'on passe Yoga de Björk dans la causerie. » Et du coup, bah, on l'a fait.
C'est ça.
Et on est vachement content de l'avoir fait parce que c'est super beau.
C'est ça.
Voilà.
Et bien, on va continuer et terminer notre causerie autour de l'état d'urgence. Et alors, Fab, tu avais fait effectivement la critique autour de, pour lutter contre le fascisme, quoi de pire que de réduire nos libertés. Et bien, moi, je voulais apporter aussi un peu une autre critique. Enfin, je pense qu'on la partage. Hein.
Oui.
En tout cas, nous deux. Oui, c'est ça, en tout cas nous deux. Sur celles et ceux qui ont leur position face à l'État, sur lesquels je peux être totalement d'accord, mais qui disent que l'État, en fait, là, stigmatise les banlieues, les pauvres, dans le profil, on dit, de ceux qui ont canardé à la calage comme des connards. Eh bien, en fait, je trouve ça plutôt pourri, parce que quand on regarde les infos aujourd'hui, d'habitude, les grands médias, n'ont aucun mal à stigmatiser les pauvres, les banlieues. Là, bizarrement, c'est pas le cas en fait. Peut-être que la réalité, elle est pas là. Parce que quand on regarde plusieurs profils de ces gus-là et d'autres, ils sont pas vraiment pauvres, hein. On a eu des ingénieurs, on a
qui
eu
travail.
Ouais,
c'est pas juste un diplôme d'ingénieur.
Ah non, c'est embauchés, ouais. Hein. Ils sont ingénieurs, il y en avait un autre, il était aussi vendeur de sommeil, un mec bien sûrement, il y en avait d'autres, c'était des proprios de bar. Enfin, c'est pas ce qu'on peut appeler non plus les plus pauvres d'entre nous, quoi. Donc c'est tout ce profil, enfin ce truc là, ça me fait un peu gerber parce que ça vient quand même de certaines orgas qui sont pas des ennemis, de loin pas, mais qui sur ce truc là d'un coup désigne, enfin
c'est une sorte de discrimination positive mais mal placée,
mais c'est horrible,
c'est-à-dire
quoi,
c'est à dire que ça focalise encore une fois sur les banlieues malgré tout, parce que on dit voyez, et sauf qu'en fait alors là c'est peut-être pas le moment d'aller focaliser, puis surtout il y a pas le lieu, donc pourquoi aller remonter ce truc là pourquoi le mettre là à ce moment là enfin c'est hyper tordu, et voilà, enfin
voilà, parce que encore une fois, enfin je sais pas, il y en a certains, je sais pas comment ils se positionnent certaines fois, mais là on a des cas où il y a des gens, ils se sont juste fanatisés dans leur piole en regardant Internet, et qui sont devenus
un pote de pote,
et je trouve que c'est plutôt gerbant que ça vienne d'orgas qui sont soi-disant amis des pauvres et des banlieues, en fait, que de les stigmatiser. C'est vachement cool, hein, je pense qu'on vous remercie beaucoup.
C'est fait maladroitement, je pense, mais le problème c'est que c'est fait, quoi.
Ouais, c'est ça le truc.
Et qu'aujourd'hui il s'est repris et qu'il y a des gens qui disent ça vient des banlieues, alors que pas du tout.
Non.
Il peut y avoir des liens, bien sûr, évidemment, mais la diversité des fous, comme on dit, il y en aura forcément un à côté de chez vous. Donc, non mais c'était une expression de des proches et que je trouve assez juste, quoi. Mais ça veut rien dire, c'est-à-dire que c'est une stigmatisation qui est malvenue, et faire dans le climat actuel plutôt gaffe, parce que le moindre truc, parce qu'il y a quand même un petit repli fasciste en France aujourd'hui, le moindre truc qui ouvre les vannes les ouvre pas qu'un peu, quoi. C'est pas une toute petite fissure, c'est que là on fait vraiment
des
inondations, quoi, et c'est des brèches dans le barrage, quoi.
C'est
donc voilà.
Bon.
Je voulais terminer sur l'état d'urgence quand même par quelque chose de très précis, c'est que en fait on avait vraiment voulu cibler les personnes soupçonnées de terrorisme pour faire l'enquête après les attentats du 13 novembre, et ben en fait les lois antiterroristes qui ont été votées, je vous rappelle qu'il y en a eu 12 en tout depuis 1986. Donc les 12 lois antiterroristes qui ont été votées se suffisaient largement à elles-mêmes, c'est-à-dire que elles permettaient de faire des perquisitions de nuit, elles permettaient l'intervention des forces spéciales, elles permettaient les arrestations arbitraires sans recours à un juge, si ce n'est en fait d'avoir l'autorisation du juge de le faire, mais vous n'êtes pas obligé de dire qui vous allez arrêter. Donc en fait je vois pas un juge dire oui non arrêtez pas les terroristes, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça était faisable sans passer par l'état d'urgence. Donc en fait si on met l'état d'urgence, c'est bien qu'à un moment donné on a dans l'idée d'être beaucoup plus large que simplement lutter contre les terroristes, et qu'on a l'idée de se servir de cet état d'urgence, et on revient à ce qu'on disait sur la stratégie du choc et sur Naomi Klein. Et alors il y a des gens qui ont fait la remarque en disant oui mais quand même ils pouvaient pas prévoir que cela arrive. C'est pas le problème, c'est pas qu'ils prévoient l'événement au jour J, C'est simplement que dans les sphères de l'État, vous avez des gens qui sont ce qu'on appelle des gestionnaires de crise et qui, eux, sont très bien formés pour qu'au moment où une crise se produise, ils sachent exactement quel bouton appuyer derrière pour continuer et pour pouvoir faire passer certaines choses. C'est pas du complotisme, ça s'appelle de la politique et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et le problème est là, c'est que l'état d'urgence aujourd'hui ne se justifie pas et qu'il est temps de le dire, en fait. Voilà.
Ok. Et vu qu'on est super à la bourre, en fait, on va faire très rapidement.
Tu veux que je fasse un jingle bref ?
Non, même pas. On passe de jingle. Allez. On va faire deux, trois brefs, mais il n'y en a même pas deux. Il y a l'appel à dons.
Ouais, donc Radio Canu a besoin de sous, toujours.
C'est ça.
On va acheter le local, on est très contents, ça s'est bien passé. Globalement, on vous remercie parce qu'on a dépassé les 33 000 euros de dons. Donc merci beaucoup à vous, mais on a encore besoin d'un petit coup de pouce pour éviter d'emprunter trop. Donc n'hésitez pas à envoyer vos dons à, et là c'est Jean-Yves qui va vous lire l'adresse.
À Radio Canu, BP 1101 69 201 Lyon, CEDEX 01.
Ou à passer le mardi soir entre 19 et 20 heures si vous voulez remettre vos dons à des gens en chair et en os.
C'est ça. Voilà. Et si vous le faire par virement, vous passez sur le site de Radio Canu, le petit onglet soutenir Radio Canu et vous avez tout.
Voilà.
Waouh, attends, je respire et j'annonce une soirée la semaine prochaine. Alors, c'est peut-être bizarre à dire, mais je suis plutôt.
C'est un sujet qu'il faut mettre sur
la
table.
Oui, c'est ça. C'est un sujet dont on avait déjà parlé à la causerie avec Mélusine Vertelune. Ça sera donc ce dont je vous parle. C'est une soirée sur les violences incestueuses. Ce sera deux diffusions en fait, de documentaires. Il y aura La conspiration des oreilles bouchées. C'est un doc qui date de 89 en fait, où c'est la parole aux victimes. Et c'est suivi d'un autre documentaire qui s'appelle Longtemps après, qui date de 2013, où je crois que c'est une sociologue, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas elle va interviewer des victimes d'inceste longtemps après, ainsi que leurs enfants, pour voir en fait les silences qui se sont installés parce que on n'en sort pas indemne et qu'on lègue des silences qui des fois en fait sont là pour cacher des blessures bien plus profondes. Donc ça se passera à la Lutine.
Ouais, la Lutine, à côté de l'atelier des Canuts.
C'est ça, au 91 rue Montesquieu. C'est vendredi 4 décembre et c'est à 18h30.
Il faut y être à l'heure. Ouais. C'était précisé parce que je pense que c'est par rapport au nombre de places.
Ok, et voilà, vous avez toutes les infos et c'est à prix libre. Donc voilà. Et sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit.
Oui.
Un bon courage pour la semaine.
J'ai juste un tout petit truc à caser, pardon. Je vous rappelle que dimanche 20, on a Georges qui vient. Donc si vous avez des questions sur l'astronomie et donc sur la vie et la mort des étoiles, parce que c'est ce que nous allons aborder, parce que la vie, on l'a déjà fait. Donc là, elles vont mourir maintenant. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions à lacausericanu@gmail.com. Georges se fera un plaisir de vous répondre. Et la semaine d'avant, le 13, nous diffuserons une interview d'une personne qui a réussi à fuir les conditions de vie qu'elle avait au départ et un mariage forcé au passage qui était prévu pour vivre sa vie. Vous verrez, ça vaut le coup, ça file la pêche.
Comment des petites gens tuent le patriarcat ?
Voilà.
On vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, bon courage à toutes et à tous. Et on se quitte avec le titre. Bon, je vais essayer.
Allez, vas-y.
Sangji Dorji, et c'est de Urna Shahar Tukji. Voilà, et ça vient de Mongolie. Ciao, bon courage à toutes et à tous.
Ciao. Au revoir, Clara.
Ciao.
Sanki darci kime tehu minne.
Achille.